Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 51e épisode de la mythologie. Après avoir découvert les procédures de passage aux enfers et les lieux de séjour, nous allons vous présenter les criminels mythiques du Tartare. Commençons par les Danaïdes. Les Danaïdes, comme nous le savons, sont les 50 filles du roi Danaos. Elles accompagnent leur père à Argos quand il fuit ses neveux. Les 50 fils de son frère Égyptos. Après avoir proposé une réconciliation, elles épousent leur cousin et les mettent à mort le soir même des noces sur l'ordre de leur père. Les Danaïdes sont condamnées aux enfers à remplir sans fin un tonneau sans fond. Ixion, le dragueur éternel. Ixion est un lapithès de la tribu du nord de la Thessalie. Il est aussi un prince, fils d'Antion, roi de Lapithe en Thessalie et de Périlème, fille d'Amitaon. Il s'était épris de Dia, fille de Dionée. Étant donné qu'il voulait absolument l'épouser, il promit, suivant une antique coutume, un merveilleux présent à son beau-père s'il permettait ce mariage. Celui-ci donna son accord et le mariage put être célébré. De cette union naîtra par la suite Pirithos, qui, devenu adulte, combattra Thésée avant de devenir son ami. Mais, après ce mariage, Ixion refusa de s'exécuter en donnant, comme il l'avait promis, un présent nuptial à Dionée, son beau-père. Fou de rage, ce dernier s'empara des chevaux qu'il avait préalablement offerts à Ixion, son beau-fils. Mais Ixion, voulant absolument récupérer ses chevaux, l'invita à venir chercher ses cadeaux dans son palais à Larissa en Thessalie. Or, Ixion avait fait creuser un énorme trou devant l'entrée de son palais et y avait fait jeter des braises de charbon flamboyant. Lorsque Dionée passa à côté de la fosse, habilement dissimulée, Ixion le poussa. Il fut précipité au fond du trou et mourut brûlé vif sur le charbon ardent. « Qu'as-tu fait, malheureux, à mon père ?» s'exclama Dia. Suite à ce crime, les dieux le punirent en lui faisant perdre la raison. Personne ne voulut purifier Ixion pour ce crime odieux, car son meurtre se doublait d'un sacrilège et les Érinyès, les divinités persécutrices, pire que les Gorgones, le poursuivirent sans relâche au point qu'il commençait à devenir fou. Dia, cependant, aimait vraiment son mari. Elle se mit à prier Zeus avec ferveur, qui fut ému par la beauté de la jeune femme. le dieu accepta de prendre Ixion en pitié. Comme c'était un bon orateur doublé d'un joyeux convive, Zeus l'invita à manger à sa table, un grand honneur sur l'Olympe, et à boire de l'ambroisie. Mais Ixion, ingrat, appréciait la beauté, en particulier celle d'Héra, et n'hésita pas à tenter de la séduire. La seule femme à laquelle il ne fallait absolument pas toucher. Outragé, Héra alla se plaindre à Zeus. Celui-ci, fou de rage, créa alors une nuée qui ressemblait à son épouse. Ixion continua son jeu, crédule, prit cette nuée du nom de Néphélée pour Héra et continua son jeu de séduction complet. C'est pourquoi Ixion s'accoupla avec elle et Zeus les prit sur le fait. De cette union naquit Centauros, qui, plus tard, s'accouplera aux juments de Magnésie. Il est donc l'ancêtre des Centaures. Les juments donnèrent naissance à des créatures au corps de cheval, au buste et à la tête d'homme, êtres souvent brutaux, amateurs de jeunes vierges que nous appelons communément les Centaures. Le roi des dieux entra dans une grande colère et condamna Ixion à un châtiment éternel. Ixion est le supplice de la roue. Il fut précipité dans le Tartare où Hermès, suivant les ordres de Zeus, attacha Ixion avec des serpents à une roue enflammée et ailée, pourvue de 4 rayons et qui tourne éternellement dans les airs. Le symbolisme de la roue est lié au symbolisme du chiffre 12, cadran des horloges. Au début du christianisme, la roue était le symbole de la divinité, de l'éternité, de l'infini. Une roue ailée était l'image du cœur des anges. Selon la Bible, la roue est l'emblème de la destinée humaine, de l'instabilité des choses, du continuel changement du destin. Sur le plan philosophique, la roue est l'image de l'éternel retour. Dans l'Antiquité, le supplice de la roue était spécialement réservé aux personnes orgueilleuses, à l'image d'Ixion. On peut imaginer que, comme Ixion ne pouvait s'empêcher d'aimer les femmes qu'il rencontrait, le feu représente les ardeurs, l'inspiration et les amours. Il est également le symbole de la purification. Pour Ixion, on peut dire qu'il a largement dépassé les limites, pour employer un euphémisme, qu'il s'est brûlé au feu de l'amour et que pour cela, il doit subir le feu des enfers. Car il n'est pas bien de convoiter le bien d'autrui. Les serpents par lesquels Ixion fut attaché symbolisent la tentation qu'il a eue envers les femmes et en particulier Héra. Sisyphe de Corinthe, le brigand du Tartare. Sisyphe, en grec ancien Sisyphos, fils d'Éole et d'Énarété, est le fondateur mythique de la ville de Corinthe. Il est l'époux de la Pléiade Mérope, fille d'Atlas et de Pléionée, de qui il a trois enfants, Ornithion, Sinon et Glaucos, qui devint le père de Bellérophon. Fondateur mythique de Corinthe, fils d'Éole, son ascendance et sa descendance sont citées dans l'Iliade. De son vivant, Sisyphe fonde les Jeux Ismiques en l'honneur de Mélicerte, dont il a trouvé le corps gisant sur l'isthme de Corinthe. Depuis l'époque des poèmes d'Homère, Sisyphe est le plus astucieux des hommes. Il développe la navigation et le commerce, mais se montre avare et trompeur et tue des voyageurs. Il passe également parfois pour le vrai père d'Ulysse. Une légende raconte en effet que Sisyphe possédait un beau troupeau dans l'isthme de Corinthe. Non loin de lui vivait Autolycos, fils de Chioné, dont le frère jumeau, Philamon, était né des œuvres d'Apollon, alors qu'Autolycos se disait fils d'Hermès. Autolycos avait reçu de son père l'art de voler sans jamais être pris. Hermès lui avait donné le pouvoir de métamorphoser toutes les bêtes qu'il volait. Ainsi, et bien que Sisyphe eût remarqué que ses propres troupeaux diminuaient tous les jours alors que ceux d'Autolycos augmentaient, il fut d'abord dans l'incapacité de l'accuser de vol, bien qu'il ait de sérieux doutes. Un jour donc, il grava sous le sabot d'un de ses animaux son monogramme. La nuit venue, Autolycos se servit comme à l'ordinaire et, à l'aube, les empreintes de sabot sur la route fournirent à Sisyphe des preuves suffisamment concluantes pour convoquer les voisins et les prendre à témoin. Il inspecta l'étable d'Autolycos, reconnut les animaux qui lui avaient été volés à leurs sabots gravés, confondit le voleur, laissant aux témoins le soin de le punir. Nous avons une scène où chacun y va de sa véhémence, chacun ayant à reprocher à l'autre une pécadille. Ainsi ressurgirent toutes les vieilles querelles de voisinage. Pendant ce temps-là, bien qu'il fût le premier concerné, tranquillement, en catimini et sans crier gare, Sisyphe fit le tour de la maison, y pénétra, et viola la fille d'Autolycos, Anticlée, qui était promise à Laërte. Anticlée, enceinte, suite au viol, ne dit rien et épousa tout de même Laërte. Elle fut ensuite conduite à Alalcomène, en Béotie, où elle met Ulysse au monde. Par son mariage, elle devient reine d'Ithaque et de lui a une fille, Clytemnestre. Lorsqu'elle fut âgée, désespérant de revoir vivant son fils Ulysse, elle se suicida. Sisyphe est surtout connu pour avoir déjoué Thanatos, la mort. En échange d'une source qui ne tarissait jamais, Sisyphe révéla au dieu fleuve Asopos où se trouvait sa fille Égine, enlevée par Zeus, qui avait pris la forme d'un aigle et que le dieu des dieux désirait. Asopos fit fuir Zeus, mais ce dernier ressentit de la rancune pour Sisyphe, qui avait déjoué ses plans amoureux. Il lui envoya Thanatos pour le punir. Cependant, lorsque le génie de la mort vint le chercher, Sisyphe lui proposa de lui montrer l'une de ses inventions, les menottes. « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Thanatos en fit immédiatement la présentation. Il enchaîna Thanatos, si bien que ce dernier ne put l'emporter aux enfers. Situation tragicomique. Thanatos étant prisonnier, l'ordre naturel du monde était mis en péril. S'apercevant que plus personne ne mourait, Zeus envoya Hadès délivrer Thanatos. Mais Sisyphe avait préalablement convaincu sa femme de ne pas lui faire de funérailles adéquates. Il put ainsi convaincre Hadès de le laisser repartir chez les vivants pour régler ce problème. Une sorte de vice de procédure. Une fois revenu à Corinthe, il refusa de retourner parmi les morts. « Une fois, ça va. Deux, ce serait abuser de votre hospitalité. » Thanatos et Hermès durent alors intervenir et le chercher de force. Pour avoir osé défier les dieux, Sisyphe fut condamné dans le Tartare à faire rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline un rocher qui en redescendait chaque fois avant de parvenir au sommet. Travaux forcés pour viol, brigandage et obstruction au service funéraire. Bref, malgré tous ses efforts et roublardises, Sisyphe n'a pas échappé à son destin. Je l'entends encore souffler en poussant son rocher vers le sommet. Nous allons nous arrêter là pour ce soir et n'ayez crainte, ces leçons de vie et de mort ne sont valables que pour les méchants et pour tous ceux qui n'écoutent ni leur cœur, ni les contes de la mythologie. Ils ne cherchent qu'à profiter des autres, de les tromper et les abuser. Ce qui n'est pas du tout votre cas, n'est-ce pas? La prochaine fois, nous parlerons de Tantale. Merci de rester fidèle à cette saga mythologique. Je me permets, avec les dieux de l'Olympe, de vous souhaiter une douce et agréable nuit, étoilée de mille rêves grandioses pour vous accompagner dans le sommeil de cette nuit.